Vous écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Madame, Monsieur, bonsoir. Comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Le Conseil des ministres en conclave demain à Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté, procédera à l'ouverture des travaux sur très hautes instructions du président de la République. Gestion des catastrophes naturelles, une mission interministérielle sur le terrain pour l'identification des zones à risque de la cité capitale. C'est dans l'optique de la prévention des éboulements. Journée mondiale de l'environnement ce mercredi, la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse au centre des préoccupations. Le dossier du 20h explore les défis liés à l'urbanisation, à la déforestation et au changement climatique, tout en s'intéressant aux efforts de lutte contre l'avancée du désert dans la Damawa. Invité du soir, David Payan, responsable au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. En sport, au football éliminatoire de la Coupe du Monde, le ministre des Sports et de l'Éducation physique préside demain la deuxième réunion préparatoire des matchs des 8 et 11 juin prochains. Ce jour déjà, séance d'entraînement public des Lions Indomptables du Cameroun au stade Omnisport de Yaoundé. Bienvenue au journal. D'abord, ce communiqué de presse. Sur très hautes instructions du président de la République, Son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté, présidera la cérémonie d'ouverture officielle de la sixième réunion du Conseil des ministres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, prévue à l'hôtel Hilton de Yaoundé, demain jeudi 6 juin 2024, à partir de 9h. C'est signé du directeur de cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebouné. Avant le dossier du soir, parlons de la gestion des catastrophes naturelles. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sensibilise les populations. Madame Célestine Kétia-Cortès a conduit cet après-midi une mission interministérielle de reconnaissance de certaines zones à risque de la ville de Yaoundé. Objectif, orienter les actions urgentes à mettre en œuvre afin d'éviter des éboulements de terrain. Rose Coco.
Quartier Mendon à Yaoundé, lui est dit derrière gendarmerie. C'est auprès d'un ravin qui se creuse un peu plus chaque année sous l'effet de l'érosion que vit Françoise Tchombou.
Nous, on reste là, on lave les assiettes. On a peur que ça soit toujours été comme ça, on fait comment?
Consciente du danger qu'elle court, cette mère de plusieurs enfants ne compte pas quitter le site, une zone à risque bondée d'ordures ménagères.
On va finir notre maison. On est là, on part où?
Face à cette situation, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est descendu sur le lieu afin de sensibiliser tous les riverains exposés comme Françoise au risque d'éboulement et d'inondation dû aux pluies diluviennes.
Quels que soient les petits aménagements qu'on peut faire, ça reste fragile. C'est des zones non constructibles.
Des dangers auxquels s'exposent également les populations de Ngouékélé, précisément à l'ancienne carrière et Don Bosco à Mimboman, des quartiers où plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des éboulements de terrain transformés en dépôts d'ordures.
Il ne faut pas attendre qu'une autre famille soit... Voilà pour commencer à réfléchir. Tous ceux qui sont sur des points à risque, il faut les réunir ensemble et trouver une solution.
Au cours de sa visite, le ministre Célestine Kétia-Cortès a prescrit aux autorités administratives des mesures fortes afin que des drames comme ceux de Ngouaché, de Damas et de Bankolo ne se reproduisent plus en cette période où l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce des pluies diluviennes dans les jours à venir.
Cette activité de sensibilisation et de reconnaissance des zones à risque rentre dans le cadre du projet Plan d'urgence de réinstallation et d'aménagement, dont les actions futures visent à renforcer la résilience des villes face à la récurrence des sinistres. Écoutons à propos le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Kétia-Courtès, au micro de Rose Coco.
Nous avons des zones qui sont identifiées dans les plans d'occupation de sol comme non constructibles. Malheureusement, ces zones sont envahies du fait de la pression démographique par les populations. Malgré le fait que les changements climatiques sont une réalité, ces populations aggravent cette situation par les dépôts d'ordures ménagères et autres. Il était important pour toutes les administrations organisées dans cette équipe qui travaille dans le plan d'urgence voulu par le président de la République pour préserver les vies des populations, aménager davantage les centres urbains. Les pluies diluviennes arrivent, il est important qu'il y ait une libération du périmètre à risque dans ces zones à risque occupées par les populations. Commencez par la chose la plus simple qui est d'amener les autorités locales, les maires, les sous-préfets, les préfets, accompagnés des gouverneurs, nos délégués départementaux et régionaux, d'engager un dialogue pour amener les populations à être aussi acteurs de la préservation de leur vie et de leurs biens.
Place à présent au dossier du 20h. Alors qu'il est 20h passé de 6 minutes, restauration des terres, désertification et résistance à la sécheresse. C'est la toile de fond de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin. À Yaoundé, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a organisé une série d'activités. Objectif, appeler à une prise de conscience collective face aux périls climatiques. Charles Abosoloba.
Cette année, le Cameroun a marqué un pas de plus vers l'enfer des changements climatiques, avec des températures records de 45 à 46 degrés Celsius à l'ombre dans les régions du nord et de l'extrême nord courant les mois d'avril et mai. Un indicateur parmi tant d'autres qui appelle à une prise de conscience collective face à la crise environnementale. Hélé Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable.
Le monde entier est interpellé parce que chacun doit apporter sa petite part de contribution pour le bien de toute l'humanité. Cela veut dire qu'il faut que nous cessions de couper abusivement les arbres, qu'on réfléchisse, atténuer nos actions vis-à-vis de la biodiversité pour ne pas aggraver le changement climatique. Il faut penser aux générations futures.
Les défis sont de taille et les enjeux colossaux. Le ministre Hélé Pierre a tenu à le souligner lors des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Bien représentés à l'événement, les Nations Unies ont réitéré leur engagement aux côtés du Cameroun avec des actions concrètes. Raymond Tavares, représentant pays ONU, dit pour le Cameroun et l'Afrique centrale.
C'est un mix, une combinaison d'activités qui commence par la sensibilisation, la restauration, l'éducation, mais aussi l'utilisation de certaines pratiques, le reboisement ou bien aussi ne pas du tout couper le bois.
Les efforts concertés portent déjà quelques fruits. On peut citer entre autres l'opération Sahel Vert qui a permis de reboiser plus de 4000 hectares de terrain, mais beaucoup reste à faire pour contrer les périls climatiques.
L'extrême chaleur inhabituelle observée à Bouya dans le département du Fako inquiète les autorités locales. Ceci est dû à l'exploitation abusive des forêts. À cet effet, les experts de l'environnement dans la région estiment que la population peut accompagner le gouvernement et ses partenaires au développement dans la lutte contre les changements climatiques afin de protéger l'environnement. Elisabeth Nathalisson.
Les réserves forestières, des zones couvertes d'arbres à forte densité ou encore des drains, autrefois protégés pour faciliter la gestion durable du climat, aujourd'hui sont détruits au détriment de la population qui va grandissante dans la ville de Bouya. Cet Ekwadi Songhe, délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable.
Le sol aussi qu'on dénude, il ne peut plus séquestrer, il ne peut plus enfermer le carbone comme cela se doit. Ce carbone est libéré. Plus on construit, plus on fabrique du ciment.
Des gestes peut-être anodins, mais qui ont un impact sur le changement climatique.
Ces frigos et ces climatiseurs aussi ont un des gaz les plus puissants, qui est le CFC, qui sont des gaz à effet de serre très, très puissants.
Des experts de l'environnement mettent un accent sur les actions combinée.
Et on ne peut pas arrêter de construire les routes. Généralement, dans le cahier de charge, il y a toujours une équipe environnementale qui s'assure que tous ces espaces sont ouverts, découverts, sont revégétés.
Au regard des fortes températures observées dans la ville de Bouya, les experts affirment que le changement climatique est une réalité et chacun de nous a un rôle à jouer. Elisabeth Nathalisson, Bouya CR TV.
Dans la région de la Damawa, l'avancée du désert préoccupe. À l'initiative des administrations sectorielles, des actions concertées sont conduites dans les différentes localités. Des milliers d'arbres sont plantés ces dernières années pour vaincre la sécheresse. Ibrahim Mohamed Abassi.
Planter des arbres pour restaurer le couvert végétal et lutter contre l'avancée du désert. Exercice quotidien des administrations en charge des questions environnementales dans la Damawa. Des milliers d'arbres sont plantés au niveau des services publics, des espaces protégés, des établissements scolaires, entre autres. Florence Djekam Amabou, déléguée régionale des forêts et des faunes pour la Damawa.
Dans la ville de Ngaoundéré, on a planté 200 arbres dans 3 écoles différentes. Si on ne plante pas pour remplacer ce qu'on coupe illégalement, à un moment donné, on ne pourra plus vivre dans la ville parce qu'il fera extrêmement chaud.
Le désert frappe aux portes de la Damawa. Les arbres sont exposés au feu de brousse et à l'abattage sauvage. Pour limiter les dégâts, un accent particulier est mis sur la sensibilisation. Saïdou Sidiki, délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour la Damawa.
Nous descendons sous terrain pour dire aux populations, ne coupons pas les arbres. On leur dit voilà les différents types d'espèces d'abord à planter dans les sites dénudés, comment élaguer les espèces. On leur parle aussi des alternatives que les foyers ont améliorées. Dans les sites d'exploitation minière, nous les sensibilisons. Ils rasent tout, ils doivent remettre en état le site en plantant quelques arbres.
Ces actions iront en s'intensifiant pour conscientiser les populations et lutter contre la désertification dans la région de la Damawa. Ibrahim Mohamed Abassi, Ngaoundéré, CR TV.
40% des terres de la planète dégradées, la sécheresse en hausse de 29% depuis l'an 2000. Les chiffres inquiètent les populations, pourtant à l'origine des dégâts causés à l'environnement. Conséquence, le processus d'auto-guérison de la planète ne suffit plus. Une organisation chrétienne fait connaître les promesses bibliques relatives à la restauration de la terre. Écoutons Akila Ndanga, son porte-parole régional, au micro de Daniel Sopo.
La Bible nous donne l'espoir qu'un jour, l'exploitation de la terre et les dommages qu'elle a subis prendront fin. Tenez, la terre est constituée de 4 principaux écosystèmes, à savoir l'eau douce, les océans, les forêts, l'air. Ces écosystèmes ont une capacité extraordinaire de se régénérer. Depuis les années 1940, la moitié des forêts pluviales du globe ont disparu. Mais certaines terres déboisées ont une étonnante capacité à se régénérer et même à s'étendre. Des spécialistes de l'écologie ont récemment été surpris de constater avec quelle rapidité des terrains se sont naturellement reboisés jusqu'à redevenir des forêts en pleine santé.
Revenons dans la zone des hautes savanes soudano-guinéennes. La Damawa sert également de transition entre les savanes soudano-sahéliennes du nord et les forêts humides du sud. La région Château d'Eau est malheureusement concernée par les questions de dégradation des terres, de désertification et de sécheresse. On estime aujourd'hui à près de 3 245 000 hectares la superficie de terre dégradée dans la zone. De quoi tirer la sonnette d'alarme dans cette région. Salomon Kankili.
Un couvert végétal dévasté sous l'action humaine, des pressions multiformes dues aux activités anthropiques, c'est le tableau sombre de la destruction de l'environnement dans la région de la Damawa. Ici, la coupe abusive du bois de chauffage et la surexploitation des galeries forestières provoquent l'érosion des berges et l'assèchement des points d'eau. Abbé Marie, coordonnatrice de la fêtière des organisations de la société civile dans la région de la Damawa, tire la sonnette d'alarme.
On observe la transformation du couvert végétal, puis l'érosion des sols. Le cas le plus patent est celui de la Fada dans le Méré. Des écoulements et des éboulements observés sur la route Ngaoundéré-Garoua.
Il faut agir rapidement, pense au docteur Awono, cadre à la délégation régionale de l'environnement et de la protection de la nature de la Damawa.
Environ 3 294 000 hectares de terres sont dégradés dans notre région. C'est grave.
Saïd Sidiki est délégué régional de l'environnement et de la protection de la nature de la Damawa.
À l'heure actuelle, il y a aussi l'exploitation minière et une exploitation agricole qui dégrade l'environnement sans penser à la génération future.
Des actions de résilience à la dégradation des terres sont mises en branle Madame Matip y travaille au quotidien.
Nous pouvons proposer comme action le reboisement, la restauration de l'arbre et des végétaux dans le paysage, la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques.
La célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'environnement Ambé, une localité hautement concernée, vise à parvenir à une prise de conscience générale chez les populations. Gandéré, Salmon Conquili, CRTV.
Invité de la rédaction ce soir, David Payan, le sous-directeur de la promotion et de la restauration de la nature au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, explore avec Charles Abosoloba la situation climatique au Cameroun et les initiatives mises en place pour lutter contre le réchauffement de la Terre. Nous les écoutons.
Monsieur David Payan, cette journée mondiale de l'environnement met en avant trois problèmes cruciaux, à savoir la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. À quel point le Cameroun est touché par ces phénomènes qui découlent des changements climatiques?
La partie septentrionale du Cameroun souffre effectivement des menaces de sécheresse à cause de la baisse de la pluviosité, à cause de la rareté de l'eau en saison sèche, une saison sèche souvent, qui s'étire sur plus de 6 à 7 mois, parfois même 8 mois, et au cours de laquelle les populations se retrouvent obligées, n'est-ce pas, de courir après une ressource qui est indispensable pour leur survie. Je vais ici parler de l'eau.
Et qui est parfois source de conflits aussi. On se souvient de ces batailles entre agriculteurs et éleveurs autour des points d'eau.
Justement, il se retrouve que les agriculteurs et les éleveurs se disputent des points d'eau, parfois, au point de pouvoir s'échanger de coups de poing.
Alors, dites-nous, quels sont les projets phares du gouvernement aujourd'hui pour tenter de stopper cette descente aux enfers vers la désertification, l'extrême sécheresse et tous ces problèmes environnementaux?
Heureusement, pour le Cameroun, qui fait partie des trois conventions de Rio, et à cause de ces conventions, le Cameroun essaye, donc avec l'appui des bailleurs de fonds, la coopération internationale, d'obtenir des appuis techniques et financiers. Donc nous participons aux différentes COP qui nous permettent de pouvoir adopter les méthodes et les outils de lutte contre la désertification et la dégradation des terres.
Est-ce qu'on peut citer quelques initiatives pratiques sur le terrain?
Oui, effectivement. Nous pouvons citer le projet phare à l'extrême nord, qui est l'opération Sahel 20, qui consiste, n'est-ce pas, à restaurer les espaces dégradés par des plantations d'arbres. Il y en a encore bien d'autres.
Doit-on s'inquiéter de l'avenir au regard de ce climat de plus en plus chaud, de ces sols qui se dégradent de plus en plus?
Je pense quand même qu'à force de sensibiliser, à force de mener les actions de plantation d'arbres, à force, nous allons renverser la tendance. Nous allons vaincre donc ce fléau qui est à l'échelle planétaire, qui ne concerne pas que le Cameroun. Donc, il y a lieu d'espérer.
Monsieur David Payan, merci.
Je vous remercie également.
Le 20h se poursuit sur le poste national de la CRTV émettant de Yaoundé. Protection des femmes et des filles en période de conflit. Le Cameroun, à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, a présenté ce jour son plan d'action. Il s'agit d'un document stratégique qui couvre la période 2023-2027. Et pour le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, son application permettra une implication accrue de la gent féminine dans la résolution des conflits au Cameroun. Écoutons le professeur Marie-Thérèse Abenaoundoua au micro de Viviane Foul.
Quand la paix est menacée dans un pays, les femmes sont les premières victimes avec les enfants. Et jusque-là, les femmes sont faiblement impliquées dans les négociations de paix. Nous voulons donc que les femmes soient plus impliquées et surtout aussi continuer le travail que le gouvernement fait pour l'autonomisation de la femme à tous les niveaux, pour que la femme camerounaise émerge, puis la volonté de la plus haute autorité de l'État est là. Nous avons aussi la restitution de la CRW, qui est une rencontre mondiale qui se tient chaque année à New York, au siège des Nations Unies, pour débattre des problèmes de la femme. Et le Cameroun a pris part à cette résolution et la délégation camerounaise a fait très bonne impression. La prochaine session qui aura lieu en 2025 porte justement sur l'évaluation. Il y avait 12 domaines critiques qui ont été identifiés à Pékin. Qu'est-ce qui a été fait? A-t-on avancé? A-t-on reculé?
Marie-Thérèse Abenandoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et à propos de la session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme tenue du 11 au 22 mars 2024 à New York, restitution des travaux ce mercredi à Yaoundé par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Cette instance, qui constitue le plus grand rassemblement des Nations Unies sur l'égalité des sexes, a pour principal objectif le renforcement des institutions et des financements afin d'accélérer l'atteinte de l'égalité des genres. Synthèse des travaux, Marie-Claire Messier Kwabna.
La Commission de la condition de la femme est le principal organe de décision dédié à la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Martine Ongola, directeur de la promotion sociale de la femme au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
Je voulais rappeler que cette commission de la condition de la femme s'appesantit sur tous les problèmes de la femme, sur les 12 domaines critiques de Beijing. Et cette année, donc, il s'agissait vraiment d'adresser la pauvreté.
Réunis en sa 68e session au mois de mars dernier à New York, les échanges avaient abouti à plusieurs conclusions concertées, appelant les États et autres parties prenantes à mettre en place plusieurs réformes en vue d'adopter des nouvelles stratégies de développement et renforcer les systèmes de protection sociale inclusifs et sensibles au genre.
On demande donc aux États de mettre en place des projets qui permettent d'accélérer l'autonomisation financière des femmes, d'appuyer la scolarisation des jeunes filles. On demande que la coopération travaille sur le volet économique, c'est-à-dire la formation, l'information, le renforcement des capacités financières des femmes pour qu'elles deviennent véritablement autonomes, pour qu'on sorte de la...
Pour les États membres, il est question de mettre en place des financements solides pour lutter contre la pauvreté et accroître les investissements afin d'élargir les possibilités d'emploi.
En éducation, formation dispensée à l'étranger, la Commission nationale d'évaluation réunie ce jour à Yaoundé a examiné 2500 dossiers de demande d'équivalence des diplômes. Sur le processus de cette évaluation, écoutons le représentant du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, Wilfried Gapsa, s'exprime au micro d'Augustine Bassam.
Le travail de M. le ministre d'État, d'abord, c'est de saisir les écoles de formation où les candidats ont obtenu leur diplôme. Le fait de vérifier si d'abord les formations sont des formations diplômantes, les formations certifiantes pour des certificats professionnels, là ça passe, mais ce n'est pas un niveau académique. Donc, ils n'ont pas droit à un diplôme, mais à un niveau académique qui sera évalué par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Pour les diplômes qui sont faux, nous savons tous, dès que vous obtenez un diplôme dans l'établissement que vous présentez, nous saisissons l'établissement. La réponse revient pour nous dit que ce candidat, on ne le reconnaît pas. Soit il n'a pas fini, il a commencé, il n'a pas terminé, c'est un faux diplôme. Nous avons généralement aussi des cas de faux bacs qui sont présentés de certains pays voisins et même à l'étranger. Dès que M. le ministre d'État reçoit cette réponse, le secrétariat technique soumet le dossier sous commission technique qui statue d'abord avec le ministère partenaire.
Cette actualité en perspective sous la coprésidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et du ministre des Postes et Télécommunications. Madame Minette Libom-Lilikeng se tiendront à Yaoundé les 6 et 7 juin 2024, les premières journées scientifiques de l'économie numérique. Cette rencontre va regrouper les experts professionnels du secteur de la finance, universitaires et divers autres participants venus d'Asie, d'Amérique, d'Europe et de nombreux pays africains. Ils vont réfléchir aux enjeux des innovations digitales sur le système financier camerounais à travers 4 ateliers au sein desquels seront abordés les questions relatives au rôle des technologies de paiement dans l'amélioration de la productivité du travail et du capital, aux évolutions réglementaires induites par les risques cybernétiques et au développement des pratiques financières trompeuses, aux externalités de l'insertion de l'intelligence artificielle dans le système financier, ainsi qu'aux perspectives qu'offre l'open banking en matière d'inclusion financière et d'amélioration de l'expérience client. Nécrologie, la reine-mère du canton Belle s'est éteinte 12 ans après son époux, le prince René Douala Manga Belle. La matriarche de 94 ans a la personnalité forte et d'une discrétion légendaire, laisse un héritage à la mesure de sa longévité ainsi qu'une communauté éplorée. Gaël Moudjondedi.
La reine-mère Delphine Douala Manga Belle, veuve du prince René Douala Manga Belle, a rejoint son époux au pays des ancêtres, laissant une communauté et des enfants plein de nostalgie.
Et maman avait vraiment une espèce d'austérité qui la caractérisait. Elle avait une volonté de rigueur extraordinaire.
94 ans, les dernières images d'elle qui ressurgissent sont celles de son 90e anniversaire.
C'était une personne bien sûr très forte, relativement discrète. Elle a eu cet accessite particulier d'être la première femme kinésithérapeute au Cameroun, d'Afrique continentale. Elle était de l'école d'Oto, qui est le père de la kinésithérapie.
Fille de Bonébon, Abonantonet d'Aïdo, Delphine Boni Ebumbu est devenue la reine des Bélois en 1954, accomplissant son devoir avec foi et rigueur pendant plus de 60 ans.
C'est elle qui donne une espèce d'allant à notre famille. En vérité, elle amène un complément nécessaire à mon père. Elle l'a sorti sans le savoir du chaos de Dien Bien Phu.
Les au revoir se feront au temps voulu entre hommage et valeur portée par la reine-mère Delphine Douala Mangabel. Gaël Moudjondedi, Douala, CRTV.
Ce communiqué en ouverture de la page sportive, le ministre des Sports et de l'Éducation physique informe l'opinion publique qu'il préside demain jeudi à 11h dans la salle des conférences du département ministériel dont il a la charge, la deuxième réunion préparatoire des deux rencontres internationales de football qui opposeront le Cameroun au Cap-Vert et à l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda. Ils sont conviés l'ensemble des administrations partenaires habituellement impliqués ainsi que la Fédération camerounaise de football. Il s'agira au cours de cette réunion d'une part d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la réunion du 29 mai dernier relative à l'organisation du match du 8 juin 2024 et d'autre part d'examiner les mesures prises ou à prendre en vue de la participation honorable des Lions indomptables à leur match du 11 juin prochain en Angola. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique tient à rassurer le public sportif que les Lions indomptables poursuivent sereinement leur préparation suivant le programme arrêté par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels diligemment mis à leur disposition par l'État. Il invite par conséquent le dit public à continuer à soutenir massivement les Lions indomptables en vue de l'atteinte de l'objectif de meilleurs résultats et de nouvelles victoires fixées aux Lions indomptables par le président de la République, Paul Biya, dans son important discours à la jeunesse du 10 février 2024. C'est signé Narcisse Mouelle Kombi. A noter que ce mercredi, après-midi déjà, les Lions indomptables ont eu une séance d'entraînement public au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Communion intense entre la sélection nationale et ses fans, mobilisés dans la perspective du match contre le Cap-Vert de samedi prochain. Samuel Billon.
Affluence au stade Omnisport de Yaoundé ce mercredi, on dirait un jour de match. Les Lions indomptables sont accueillis dans la ferveur des fans admirateurs. Geste de communion avant la séance, Marc Brice et son équipe font le tour du stade pour saluer la présence du public. Le technicien belge a ensuite mis ses joueurs au travail, deux camps pour apprécier à sa juste valeur le pic de performance de chaque joueur en situation réelle de jeu. Des individualités dans un collectif en consolidation.
Je trouve un milieu de terrain avec beaucoup de joueurs de qualité. Carlos Baliba, Anguissa, le milieu de terrain est vraiment saturé. Donc il va falloir se surpasser pour pouvoir être dans le 11 entrant. Nous ne sommes pas là pour observer parce que c'est un match capital, il faut à tout prix gagner.
Eric Massim Choupo-Moting et Georges Kevin Koudou.
Je parle en premier de cette communion avec le public. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection, de revoir les coéquipiers parce qu'on sait qu'au sein de l'équipe, l'ambiance elle est vraiment bonne. Et le fait d'avoir cette communion avec les supporters, bah c'est sûr avec le peuple que ça nous crée des liens, ça nous rapproche.
Nous avons confiance, on sait qu'on a des très bons joueurs, on est conscient et on joue à la maison. Ici à la maison, le but c'est toujours de gagner, ça c'est clair. Et même nous, on attend de nous de gagner tous les matchs qu'il y a ici à la maison.
Cameroun Cap-Vert, rendez-vous samedi à 14h au stade Omnisport à Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Ton cycliste international du Cameroun, Clovis Camzon Abosolo, sociétaire de la SNH Vélo Club, remporte la cinquième étape longue de 119 km courue ce mercredi entre Bafoussam Tchan et Nkonsamba. Il est suivi de son équipier de la SNH Vélo Club, Rodrigue Kouere Nounawe, et de l'Ivoirien Cissé Issiaka. Le maillot jaune reste camerounais à 2 minutes 14 secondes. Écoutons le maillot jaune, par ailleurs vainqueur de l'étape du jour, Clovis Camzon Abosolo, au micro de Didier Marius Etundi.
C'était une étape très stratégique parce que déjà, il fallait aller la chercher parce qu'hier, j'ai été renversé par les Algériens et il a failli que je passe à l'offensive aujourd'hui pour leur montrer que hier, s'il n'avait pas fait ce mauvais jeu, je pourrais aller chercher cette étape. Mais comme Dieu était avec nous, aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mes équipiers ont fait le boulot que je les ai demandé. Et j'ai attendu le bon moment pour contrer et tous les adversaires étaient vraiment cuits. Je pense que j'ai encore donné quelques écarts. On peut pouvoir contrôler avec les écarts jusqu'à Yaoundé. À 15 km, j'ai vu les Algériens. Le deuxième maillot à poids, il était vraiment très touché parce qu'il a demandé à ses équipiers de faire le tempo. Et j'ai directement lié les pieds. C'est à ce moment où j'ai pu passer à l'offensive. C'est déjà encore une étape très difficile. On va se remettre, on va rouler comme aujourd'hui. On va faire les stratégies le soir pour envoyer certains mal classés à l'échappée pour pouvoir éclairer le devant. Si possible, que demain j'ai les jambes, je vais tout essayer. Je pense qu'avec les écarts qu'on aura aujourd'hui, on pourra contrôler jusqu'à la fin à Yaoundé.
Équitation, la Super Coupe internationale Horse Race se dispute le 12 juin prochain. L'événement initialement programmé dans la ville de Garoua va se tenir finalement au stade Lamido Yaya Dairou de Maroua. Quatre pays sont engagés dont le Cameroun, hôte du tournoi. La compétition est l'un des trois grands rendez-vous sportifs portés par la Fédération camerounaise des sports équestres. Elle marque la fin de la saison sportive au sein de l'instance. Russell Oriani.
La Fédération camerounaise des sports équestres s'engage dans un processus de promotion à grande échelle des sports d'équitation. La Supercoupe internationale du Cameroun, Horse Race, s'inscrit dans ce contexte. L'instance va de se faire mettre un terme à 8 mois d'activité intense. Le président de la fédération, honorable Dr Kamsouloum Abakabir.
La saison épique dure environ 8 mois et pour dire au revoir à la saison qui vient de s'achever, nous organisons la Supercoupe qui permet aux chevaux qui se sont les mieux comportés durant toute l'année à compétir.
Le tournoi fait suite au Grand Prix international du Cameroun, tenu le 11 mai dernier dans la ville de Maroua, l'une des trois compétitions d'envergure de la FECAS, vitrine de la culture locale. La Supercoupe internationale Horse Race, pour son lancement cette année, va intégrer 6 courses de chevaux définies sur les distances de 1200, 1400 et 1800 mètres. 120 palefreniers provenant de 40 écuries vont compétir sous les couleurs nationales du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Cameroun, les quatre pays participants.
Nous avons à côté de nous et en face de nous les écuries qui nous viennent des pays voisins. Nous profitons donc du sport équestre pour raffermir les liens de fraternité et d'amitié avec nos voisins.
Pour ses débuts, l'événement va drainer des foules. 15 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du stade Lamido Yaya Dairou de Maroua le 12 juin prochain, date du tournoi.
Retenir de ce journal, le comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, le conseil des ministres en conclave demain à Yaoundé. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goudé, procédera à l'ouverture des travaux sur très hautes instructions du président de la République. En sport football éliminatoire de la Coupe du Monde, le ministre des Sports et de l'Éducation physique préside demain la deuxième réunion préparatoire des matchs des 8 et 11 juin prochains. Ce jour, déjà, séance d'entraînement public des Lions indomptables du Cameroun au stade Omnisport de Yaoundé. 20h33, fin de ce journal, technique Désiré Melingui, réalisation Christine Victoria Penda, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah, merci. Excellente soirée avec la CRTV.